Bonjour, aujourd'hui avec Haïm Korsia, nous allons évoquer tout simplement le mot Torah. Est-ce qu'il faut écrire Torah, T-O-R-A-H ou T-H-O-R-A? Déjà, un peu d'orthographe.
Voilà, c'est une grande discussion. Le T-H ou R-A n'a aucune logique, enfin le T-H en tout cas au départ. Torah, c'est T-O-R-A. Mais alors H, ça fait plus juif, je pense.
Ça fait plus juif. Bon, alors c'est... on
écrira... Sinon, normalement, Torah, ça devrait être T-O-R-A. Mais je reconnais que j'écris T-O-R-A-H. Et que si j'écris T-H-O-R-A, c'est pas dramatique.
C'est pas dramatique. Alors nous voilà rassurés pour l'orthographe. Mais maintenant, qu'est-ce que la Torah? Que comprend-elle comme ouvrage? Et
la Torah,
expliquez-nous cela.
C'est exactement comme l'orthographe de la Torah, c'est pas très clair.
Ah bon?
La Torah, normalement, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu livrée aux hommes. Donc c'est la Bible. Sauf que, quand nous on parle de Torah, ça veut aussi dire les cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuque.
Oui.
Parce que le Pentateuque est écrit sur un rouleau de la Torah, qu'on appelle en hébreu Sefer, livre de la Torah. Et donc par extension, la Torah, c'est les cinq premiers livres de la Bible, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, le Pentateuque. C'est-à-dire en gros, depuis la création du monde, non pas en gros, depuis la création du monde, jusqu'à l'entrée des Hébreux en Terre Sainte. Ils sont à la porte de la Terre Sainte. Le chapitre suivant sera le livre de Josué, où Josué va conquérir la Terre. Donc on est vraiment depuis la création du monde jusqu'à la fin des 40 ans dans le désert. Et la mort de Moïse, c'est le dernier passage, très émouvant. Et les Hébreux sont à la porte de la Terre Sainte, ils vont entrer. Ça, c'est la Torah. Mais, de manière générale, la Torah, c'est toute la sagesse juive. C'est-à-dire que c'est les textes, donc ça veut dire les Pentateuques, mais ça veut dire aussi les prophètes et les hagiographes.
Donc on ajoute à ces cinq livres. Donc voilà.
Donc quand on parle de la Torah, je pense qu'il faut d'abord contextualiser. Est-ce qu'on parle de la Torah au sens du Pentateuque? Est-ce qu'on parle de la Torah au sens de tous les livres prophétiques? Ou est-ce qu'on parle de manière même plus large de la Torah, la sagesse juive? La Torah dit. La Torah dit, c'est la Torah. Et vous savez que la Torah est partagée en deux grandes masses. La Torah écrite, donc les 24 livres de prophètes. Enfin, la Bible, c'est les 24 livres de prophètes. Et la Torah orale. Et la Torah orale, c'est les commentaires de la loi écrite.
Voilà, j'allais vous demander, est-ce que ça ne comprend pas aussi le Talmud?
Voilà, et les commentaires, c'est le Talmud, en fait, pour être plus précis, puisqu'on est très
et
précis
à Khan Academy. Et ces commentaires s'étalent au fil des ans, je suppose,
évidemment.
Qu'il y en a de plusieurs époques.
Alors, voilà comment ça se découpe. Les derniers textes prophétiques datent d'à peu près de l'an moins 300, 250-300, avant notre ère. C'est l'époque du texte des Maccabées, qui n'entre pas dans notre canon biblique. Il entre dans le canon chrétien, il n'entre pas dans le canon biblique. Pourtant, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Ce texte raconte une histoire de Judas Maccabée et tous les Maccabées, la dynastie des Maccabées qui s'est élevée, dressée contre les Grecs, qui ont rétabli le culte sacré dans le temple. Ils ont chassé les idoles du temple, ils ont rétabli le culte sacré dans le temple. Ils ont régné pendant 200 ans, mais ça ne figure pas dans le canon biblique parce que ce n'est pas la vocation d'Israël de faire la guerre. Ils ont été obligés de faire la guerre contre les Grecs. Ils ont gagné, c'était la nécessité du moment, mais ce n'est pas la vocation d'Israël. Or, les textes de la Torah ne fonctionnent pour nous comme des textes sacrés que s'ils ont une vocation ponctuelle et permanente, pour les siècles des siècles, diraient nos amis chrétiens. Donc, on est dans la Torah, c'est-à-dire les textes écrits jusque l'an à peu près à moins 200. De moins 200 à plus 200, nous sommes dans une époque qui s'appelle l'époque de la Mishnah. Mishnah veut dire l'enseignement. C'est les premiers commentaires oraux, absolument oraux, rigoureusement oraux, de la Bible. En l'an 200, un homme extraordinaire, Rabbi Yehuda le prince, décide de quelque chose de terrible. Il décide de mettre par écrit la loi orale. Et un commentaire dit, ce jour-là, une voix du ciel est sortie et a dit malheur aux hommes qui mettent par écrit ce qui doit rester oral. Et un autre commentaire dit non. Il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit heureux les hommes qui ont réussi pour protéger la Torah à mettre par écrit ce qui n'était qu'oral.
Donc c'était un vrai débat finalement.
Exactement.
De savoir s'il fallait mettre par écrit ou conserver la tradition et
oui.
L'enseignement oral.
Et c'est un débat très profond parce oui. Que en fait, qu'est-ce que ça veut dire mettre par écrit l'oralité? L'oralité s'adapte en fonction des moments, des lieux, des époques, des contraintes.
Tandis que l'écrit fige. Voilà.
C'est-à-dire que si vous mettez par écrit, c'est gravé dans le marbre et ce n'est plus adaptable. À moins d'avoir une jurisprudence extraordinaire qui adapte l'écrit. Alors la Torah, c'est ça, la Torah, puis même la parole de Dieu, à l'instant même où elle est donnée aux hommes, elle est datée. Donc pour la rendre toujours actuelle, puisque Dieu a parlé non pas aux hommes seuls au pays de Moussaï, mais à nous tous, à toute l'humanité, de toujours,
humain,
de tous
oui.
les temps. Pour la rendre en adéquation avec chaque époque, il faut qu'elle soit agrémentée d'une forme de, d'oralité, c'est-à-dire d'adaptabilité. Je veux dire, c'est la jurisprudence. Donc il y a la loi écrite et la loi orale. Donc on est en l'an 200, et Rabbi Yehuda HaNassi fait un tri dans l'ensemble des discussions entre rabbins qui ont émaillé l'histoire rabbinique, de moins 200 à plus 200, et il écrit la Mishnah, qui est six traités d'enseignement. Ces traités, on en discute. Et on a discuté de plus de 100, donc, à 500. Et en 500, on a finalisé le Talmud de Babylone.
Voilà.
Parallèlement, il y avait un Talmud de Jérusalem qui se faisait, qui a duré un peu plus longtemps. Donc, en gros, quand on parle de Torah, c'est Torah écrite et Torah orale, qui comprend également le Talmud, mais c'est aussi, tout simplement, ces rouleaux qu'on lit le samedi à la synagogue, et c'est peut-être aussi cette parole des anciens qu'on écoute lorsqu'ils sont capables de nous transmettre l'enseignement qu'eux-mêmes ont reçu de leurs anciens.
Alors, justement, j'allais vous poser cette question, Haïm Korsia. Cette Torah, à la fois donc, le Pentateuque et les commentaires, vous les lisez dans les rites du samedi, on les lit régulièrement.
Alors, le Pentateuque, qui est écrit sur un parchemin, qu'on sort tous les samedis à la synagogue, est lu pendant un an. C'est-à-dire que chaque semaine, on lit un morceau, il y a 52 passages, et au bout d'un an, on a fait le tour. C'est-à-dire qu'en gros, au moment, un peu après Kippour, un peu vers octobre, novembre, octobre, enfin octobre, on finit la lecture, et on redémarre le même jour le début de la Genèse. C'est-à-dire qu'on finit, et il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de solution de continuité dans la lecture de la Torah. Le jour où on finit la Torah, on redémarre la lecture de la Torah, par la Genèse.
Alors, grâce à Haïm Korsia, nous avons appris ce que c'est que Sefer. Alors, Sefer, c'est le rouleau. La Mishnah, donc les commentaires des premiers temps. Et puis, le Talmud, donc ce qui a suivi, les deux Talmuds, celui de Jérusalem et celui de Babylone. Il y en a d'autres ?
Non, mais le plus connu, paradoxalement, c'est celui de Babylone.
Celui de Babylone. Merci à Haïm Korsia et nous nous retrouverons une prochaine fois pour un autre mot de la Torah.